Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dans cet épisode, je vais te parler de multipotentialité ou de multipassionné. Je ne sais pas trop comment me définir, quel nom, quel mot, quel adjectif, je ne sais pas comment dire ça. Quel mot mettre sur moi? Est-ce que si on devait me coller un post-it ou un t-shirt dans le dos avec un message qui me mette dans une case, est-ce que quelque part on y arriverait? Bah oui, c'est toute la grande difficulté de la manière dont je me perçois actuellement. J'espère que tu vas bien, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelle Vie, le podcast, tu sais, dans lequel j'explore la construction d'une nouvelle vie ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et ce que je voudrais vivre dans le reste de ma vie. Alors c'est peut-être un petit peu ambitieux comme ça, mais en fait c'est apporter des éléments de réflexion si toi aussi tu te reconnais dans certaines de ces choses-là, de ces problèmes-là, tu vois. Et ce que j'essaye de faire dans Nouvelle Vie, c'est vraiment, tu vois, de te donner l'avancement de mes réflexions là-dessus. Et vraiment, il y a ce mot qui me trotte, que j'arrive pas, que j'ai du mal à poser, tu vois. C'est pour ça aussi que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé dans le podcast. Et parce que, quand je réfléchis à ça, à un moment donné, j'arrivais pas à mettre le mot, j'arrivais pas à me décider, à savoir si je devais en parler, si je devais pas en parler. Même parfois, tu vois, c'est là où il y a une espèce de complexe de l'imposteur, tu vois, c'est avouer qu'on serait multipotentiel, c'est quand même super gonflé, j'ai envie de dire. Parce que les multipotentiels, quand on pense ça, en fait, c'est juste le nouveau mot qu'on mettrait sur des hauts potentiels, des génies, des tout ce qu'on voudrait. Et en fait, je le vis pas comme ça, je peux pas le vivre comme ça, parce que je vois comme un problème, en fait, comme un défaut dans la société telle que nous avons. Et c'est une discussion nous avons eu avec ma femme encore hier, on en discutait de tout ça. Et c'est en fait, tu sais, cette histoire de il y a une phrase, c'est think out the box, sortir de la boîte, penser en dehors de la boîte. Et je disais à ma femme, parce que c'est un article que j'ai lu l'autre jour qui m'a fait réfléchir aussi, sur lequel je pense que c'est, il y a des éléments intéressants, et je lui disais, mais en fait le problème, en fait, c'est de savoir de quelle boîte on parle et de quelle boîte on nous a enfermé. Parce qu'en fait, la grande difficulté, c'est que le monde était conçu pour des gens qui savent à peu près ce qu'ils veulent, ou en tout cas qui doivent décider à un moment ce qu'ils veulent. Et c'est un petit peu le, moi aussi d'ailleurs, j'ai joué ce rôle là par moment quand j'étais enseignant à la fac. T'as remarqué que j'ai dit quand j'étais enseignant à la fac, puisque je considère que je suis de moins en moins enseignant, et pour tout te dire, je pense que c'était la dernière année d'enseignement à la fac, mais ça c'est un autre débat, quoique ça y touche un petit peu. Mais dans cette histoire-là, en fait, on leur demande quand ils ont 18, 19 ans, même à 17 ans, quand ils doivent faire leur choix, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est une question que je me suis beaucoup posée, et en fait, là maintenant, tu vois, il y a un truc qui me revient, j'ai un souvenir de quelque chose, une discussion que j'ai eue avec ma sœur, avec mon beau-frère à l'époque. Et quand j'étais au niveau du bac, à peu près à ce moment-là du bac, je ne savais pas trop quoi faire de mes études, ce que j'allais faire après. Et je savais, en fait, la grande difficulté que pouvait cerner ma famille, la grande inquiétude, c'était de dire, s'il part à la fac, il va rien foutre. Et en fait, c'est vrai, si je vous mettais dans un amphi où il y avait 200 personnes, j'allais pas faire grand-chose, enfin, ou 400, ou 500, ou 600 personnes, et où finalement, il fallait travailler par soi, être indépendant sur le plan du travail, je n'aurais pas fait grand-chose, parce que je ne suis pas structuré pour ça. Les gens me pensent organisé, mais en fait, je travaille ma organisation, je travaille ma structuration pour laisser, en fait, des espaces, et... Donc, cette discussion avait été, à un moment donné, de se poser la question, de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et donc, le choix que j'ai fait, c'est de dire, je vais prendre quelque chose qui soit le plus ouvert possible. Je suis allé à l'UT, en UT de gestion, avec du marketing, etc. Et la caractéristique de l'UT, c'est que, d'une part, c'est sur dossier, d'autre part, il y avait que 200 personnes. Donc, déjà, c'est un grand amphi, et je vois que dans l'amphi, c'était pas moi le... J'étais pas devant, quoi. J'étais plutôt vers l'arrière et tout. J'avais pas envie plus de travailler que ça, mais j'ai pris une décision à ce moment-là. C'était de dire que de toute façon, j'allais écouter tout ce qui se passait dans le cours et que j'allais pas travailler à côté, ou j'allais faire ce qui me plaisait à côté. C'est-à-dire bidouiller sur des ordinateurs. C'était principalement ce genre de truc-là comme ça. Et puis sortir le soir, trouver une certaine liberté à l'époque. Et donc, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et la discussion que j'avais eue avec ma sœur et mon beau-frère et tout, qui eux avaient un métier, parce que ma sœur a 10 ans de plus que moi, et c'était de dire, mais qu'est-ce que tu veux faire et tout, et donc de questionner, de dire, mais qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que c'est que la gestion? Qu'est-ce que c'est que toi quand tu fais directeur financier? Qu'est-ce que tu fais toi quand tu... mon oncle aussi, consultant, etc. Qu'est-ce que c'est que ce métier-là, etc. Et quand il me présentait ça, je me disais, oui, c'est potentiellement intéressant, c'est vrai que ça a l'air intéressant et que ça laisse une grande ouverture de choses, de plein de choses à faire. Mais quand j'ai fait mes études, après, donc j'ai fait une école de commerce, en fait, ça m'intéressait pas spécialement beaucoup de faire des chiffres, de la gestion, etc. Ce qui m'intéressait finalement, même le marketing en tant que tel m'intéressait pas vraiment, parce que le marketing tel qu'on nous l'enseigne à l'école, c'est de faire des études de marché. Bon, c'est rasoir de faire des études de marché, soyons honnêtes. Faire une étude de marché, c'est, y a rien de plus rasoir, en tout cas pour moi. Si toi tu aimes faire des études de marché, je suis content pour toi, mais moi je suis pas content pour moi, tu vois. Si je devais faire des études de marché toute la journée, c'est un truc qui est rasoir, totalement rasoir pour moi. Et donc dans cette notion de là, finalement, on essaie de se mettre dans une boîte. Et dans une boîte, quand tu sors d'école de commerce, c'est de dire, bah, soit tu vas faire vendeur de Mars, vendeur de lessive, vendeur de Coca-Cola, des choses comme ça. Soit tu vas faire de la gestion, tu vas devenir gestionnaire. Tu peux faire à la limite créateur d'entreprise, mais créateur d'entreprise, ça dépend dans quel sujet tu vas le faire. Et c'est là où, tout d'un coup, la boîte, elle va pouvoir s'ouvrir. Mais en tout cas, on met dans une boîte, tu vois. Il y a un moment donné, on met dans une boîte. Et toute l'éducation, le principe de l'éducation, le principe de l'éducation telle que les pays l'ont conçu, c'est de partir d'un principe qu'il faut créer des êtres qui soient capables de rentrer dans des cases productives. Vraiment, c'est le cas. C'est, on va dire que on est destiné d'une manière. Alors à une époque, les gens étaient destinés à faire quelque chose. Hein. On peut se rappeler que, par exemple, si j'étais forgeron, si mon père était forgeron, je serais devenu forgeron. Et puis on peut se rappeler que dans certaines familles riches, pas riches, bourgeoises, etc., on destinait le premier à reprendre les affaires de la famille, le deuxième à être prêtre, la troisième à être bien marié. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui étaient rentrées dans la bourgeoisie, etc. Et donc, on rentrait les gens dans une case. Et puis, avec l'industrie, on a rentré les gens dans une case. Toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et ce qui n'empêche que le passage entre les cases est parfois compliqué. Et même, on te dit, ben non, tu peux pas sortir de ta case. Tu es dans ta case. Toi, tu fais ça, tais-toi, t'as pas besoin de faire ça, etc. C'est quelque chose, d'ailleurs, que j'ai vécu dans mon travail. Quand j'étais au conseil régional, où à un moment donné, on m'a dit, mais pourquoi tu te mêles de ça? Je dis, bah, parce que ça me semble logique, on en discute, etc. Il me dit, oui, mais non, ça, c'est ta voisine qui doit s'occuper de ça, toi, tu n'as rien à dire là-dessus. Donc, la sortie de case est sévèrement réprimée. Et donc, on discutait de ça avec ma femme, et je lui disais, mais en fait, le problème, c'est pas finalement d'être dans une case, c'est pas de sortir de la case. On a besoin d'une case. La question, c'est comment on crée la case. C'est-à-dire que comment on va définir la case et quelles sont la boîte que l'on va créer, quelle est cette boîte et comment on va la créer et comment on va la constituer pour que finalement on soit à l'aise à l'intérieur. Dans l'écriture de mon livre sur les habitudes et sur le contenu minimum viable, des livres qui sont toujours pas parus mais qui sortiront bien finalement un jour, j'ai écrit des lignes particulières dessus en disant si on prend le basket par exemple, en ce moment je regarde le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan et j'ai pris cette image là en fait parce que j'ai écrit sur Michael Jordan, j'ai écrit plein de choses sur Michael Jordan dans mon livre. Et en fait Michael Jordan, c'est vrai qu'il y avait un jeu, les défenseurs essayaient de le pousser en dehors du terrain et lui il essayait de rester dans le terrain ou en tout cas il essayait de rentrer dans une zone dans laquelle il pouvait shooter. Et le jeu du basket en fait c'est de pousser les gens dans une zone où ils ne peuvent plus shooter, ils ne peuvent pas marquer pendant, enfin sans les pousser mais physiquement ou en tout cas les empêcher soit par l'intimidation soit physiquement soit par plein de méthodes, mais on est là dedans. Et l'autre jeu, c'est d'avoir un jeu à peu près, on va dire, en triangle ou d'autres variations qui font que on arrive quelque part à créer des espaces. Mais tout ça se fait dans un espace de jeu. Le principe, en fait, c'est qu'il y a un espace de jeu qui donne une grande liberté. En fait, il y a une grande liberté à l'intérieur de l'espace de jeu, mais c'est valable pour le foot, c'est valable pour n'importe quel sport. Il y a une grande variété à l'intérieur de l'espace de jeu, mais s'il n'y avait pas l'espace de jeu, s'il n'y a pas la limite, en fait, la variété serait tellement grande que le jeu n'existerait plus, parce que finalement, on pourrait faire n'importe quoi. Vous savez, c'est moi, quand j'étais gamin, on n'avait pas de limite au terrain de foot, etc. On pouvait faire rebondir le ballon, on pouvait faire plein de choses, etc. Il n'y avait pas de limite. Et au final, au bout d'un moment, le jeu devenait moins intéressant, parce qu'on pouvait faire n'importe quoi. S'il y en avait un qui avait décidé de partir à l'autre bout du terrain avec le ballon, bah, il pouvait partir parce qu'on n'avait pas fixé la ligne, etc. Donc, au bout d'un moment, on finissait par tracer une ligne, en dire, les lignes, c'est là, les buts, c'est là, etc. On fait pas ça, on fait pas ci, etc. Et donc, pour en revenir sur cette histoire de multipotentialité, il y a un moment donné, la question de la boîte de telle qu'on va la créer, cette boîte, elle devient problématique parce que finalement on a envie d'y mettre plein de choses, ou alors on a envie d'être dans plusieurs boîtes à la fois, ou en tout cas on a envie tout simplement de ne pas avoir une seule boîte dans laquelle on serait rangé. Et c'est pour ça, quand je parle de post-it au début de l'épisode, de dire quel est le post-it qu'on pourrait mettre sur ma boîte à moi, bah elle est difficile, parce que si la boîte est très grande, bah finalement ça devient compliqué de vivre dans cette boîte là parce qu'elle est extrêmement grande. Si elle n'a pas de limites, en fait, si on ne peut pas toucher les limites, eh ben ça va pas. Mais si je mets des limites qui sont trop importantes, ça va pas non plus, parce que je m'y sens à l'étroit. Et la manière de définir ça, en fait, tout simplement, c'est que le monde est conçu pour des spécialistes. Et ce que je disais donc à mes étudiants, ce que la discussion que j'avais eue avec ma sœur, mon beau-frère et tout, c'est qu'ils disaient, bah voilà, quand tu vas faire l'école, tu vas choisir des options, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et avec cette option-là, tu vas pouvoir faire telle chose. Donc on rentre dans une boîte. Mes étudiants, quand on fait de la communication, on leur dit, vous allez faire ça, 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 tel ou tel métier, mais ils vont rentrer dans une boîte communication dans laquelle il y a des sous-boîtes, etc. Et donc c'est une question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous voulez faire? Et beaucoup d'étudiants, certains étudiants m'avaient dit, dans certaines promos d'ailleurs, plus que dans d'autres, certains m'avaient dit, moi, j'en sais rien. Et j'étais étonné quand même que des étudiants en bac plus 4 n'en sachent rien. Et puis, vous voyez, à tel point où moi, ça fait 20 ans que j'ai fini mes études, et finalement, j'en suis une situation où je sais pas vraiment quelle est la boîte que j'ai envie de dessiner. En fait, le monde est conçu pour des spécialistes, car moi, j'ai besoin de variété. Et si vous vous reconnaissez là-dedans en tant que multi-passionné, multi-potentiel, ou je sais pas quoi, multi-quelque chose, vous voyez exactement de quoi je veux parler. C'est-à-dire que, en fait, face à vous, vous avez plein de choses, et tout vous intéresse. Vous avez la pensée que vous pouvez prendre n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, et que ça va vous intéresser. Je vais vous donner un exemple vraiment typique, et vous allez comprendre tout de suite le truc. Si par exemple vous mettez sur Netflix, et que je regarde Netflix, il peut y avoir plein de séries qui vont être devant, mais potentiellement, n'importe quelle série que je vais pouvoir démarrer m'intéressera. Mais vraiment, n'importe quelle série m'intéressera. Même celle qui, au début, n'est pas censée m'intéresser, je vais finir par m'y intéresser. Et parfois, souvent, en fait, je me rends compte que je vais regarder jusqu'au bout, que ça m'intéresse vraiment jusqu'au bout, et que je vais retenir des choses, et que je suis capable ensuite de m'attacher à certains personnages, etc. Et en fait, il y a plein de séries comme ça que j'ai découvert par ça, parce que la vignette me semblait plus ou moins sympa, parce que le sujet me semblait sympa, etc. Puis je me suis dit, ah, je vais regarder. Et puis, vraiment, j'aurais pas dû pousser plus loin que ça, mais en fait, ça m'intéresse. Et maintenant, si on le sort de ça et qu'on regarde un petit peu dans ma vie, comment j'ai fait, comment j'ai construit des choses, il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a énormément de choses. Dans mon enfance, hein, c'est vrai que j'étais réputé pour arriver à tout prendre n'importe quel truc. Je pouvais jouer au mécano, au Lego, je pouvais jouer à plein de choses. Mais regarder aussi n'importe quel documentaire à la télé et m'intéresser à n'importe quel documentaire à la télé, en retenir quelque chose. Et le pire, c'est d'en retenir plein de choses. Et là où c'est des discussions des fois qu'on a les étudiants, vous voyez, quand je ferai plus de cours, c'est ce qui manquera peut-être, les discussions avec ces étudiants, c'est de, des fois, on discute de tel ou tel sujet et tout, et puis ils me regardent un petit peu, de dire, bah oui, moi aussi j'ai regardé votre truc là-dessus, moi aussi j'ai regardé ça, moi aussi je suis sur TikTok, moi aussi je fais ça et tout, et ils me regardent un petit peu bizarrement, en disant, mais waouh, attends, qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Mais oui! Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est que le multi-passionné, tel que le multi-casquette, on peut appeler ça le slasher, on peut appeler ça plein de choses, en fait, la variété nous nourrit un peu. Hein. C'est comment est-ce que finalement la variété nous nourrit, et comment finalement la spécialité nous emmerde. Je vais le dire très clairement, voilà, moi là, je vais le dire très clairement, comme ça la spécialité m'emmerde. À tel point d'ailleurs, et je vais te dire un truc qui est vraiment très très amusant. Tu as remarqué que je te tutoie dans cet épisode, voilà, je sais pas pourquoi, c'est qu'à force de tutoyer les gens dans mes vidéos YouTube et dans certains contenus, je me suis mis à tutoyer les gens, et ça devient quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Donc potentiellement, voilà, maintenant on parle entre boîtes, hein, tout de suite, donc je te tutoie, et donc je vais te dire vraiment le truc, vraiment les choses qui me viennent, parce que là je te fais un épisode, tu vois, il n'y a aucune note, il n'y a rien du tout. C'est que j'ai le sentiment, la certitude que j'ai le sentiment que je peux tout faire. En fait, vraiment tout faire, que tout m'intéresse. Alors, tout, soyons honnêtes, hein, y a des choses sur lesquelles mon cerveau n'est pas fondamentalement bien câblé. Je veux parler de ça par exemple sur la 3D, vous voyez, par exemple, tu vois. Par exemple, j'ai voulu faire des logiciels de la 3D, des logiciels de 3D à une époque. Je suis pas potentiellement bien câblé sur la 3D parce que j'ai un problème de représentation dans l'espace. Il y a quelque chose qui va pas bien dans l'espace. C'est comme, il y a un truc sur lequel je suis pas très bien câblé aussi, c'est la visualisation. Alors ça, c'est un truc. Ma femme me dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu arrives pas à visualiser. Et j'arrive pas à lui expliquer pourquoi je n'arrive pas à faire de visualisation. Mais en fait, ça vient des sens. À un moment, tu vois, t'as un sens qui est plus ou moins développé, puis t'as des sens qui sont moins développés. Donc, je travaille la visualisation. J'ai essayé de travailler de la 3D. J'ai eu des logiciels de 3D. J'ai piraté des logiciels de 3D, 3D Max et compagnie. et plein d'autres logiciels comme ça. Mais en fait, faire un objet en 3D physiquement, oui, représenter, je peux faire des maisons, je peux faire des robots, je peux faire plein de choses, je m'amuse avec ma fille, on fait tout un tas de choses en 3D physique, mais quand ça devient sur un écran, en fait, j'ai beaucoup de mal à me projeter là-dedans, de même que j'ai beaucoup de mal avec certaines choses en maths. Alors, les maths, tout ce qui est calcul mental, etc., les chiffres me viennent assez vite, mais dès que c'est des choses un petit peu abstraites, au bout d'un moment, ça m'ennuie prodigieusement, et donc je m'intéresse pas. Mais je pense qu'en fait, je dis je suis pas câblé pour, mais potentiellement, si je m'y intéressais, il va savoir si quelque part je serais pas capable de m'y intéresser et d'y trouver un certain plaisir à l'intérieur de tout ça. C'est comme la compta, en fait, la comptabilité, je m'y suis jamais vraiment intéressé, j'ai fait le minimum pour comprendre la comptabilité, les chiffres de comptabilité, etc., comment ça fonctionne, sans jamais creuser. C'est pour ça que d'ailleurs que les études dont j'ai discuté avec ma femme, avec ma sœur et mon beau-frère, n'ont jamais abouti sur finalement ce que j'étais censé faire au final, parce que quand on arrive sur la partie faire les chiffres, la gestion, etc., ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui m'intéresserait, ce que j'avais retenu de ce que faisait mon beau-frère finalement, c'est qu'il réfléchissait plus aussi à la stratégie de l'entreprise qu'il gérait, qu'il voyait des trucs comme ça. Et ça, moi, tu vois, quand il le faisait, ça m'intéressait. Mais ce que j'avais pas vu, c'est tout le pendant que quand après j'ai travaillé un petit peu dans la société où il était, dont il dirige. Et en fait, quand j'ai vu le quotidien, en fait, dans le quotidien, 90% des choses ne m'intéressent pas, en fait, dans ce métier-là. C'est comme la gestion de projets informatiques, etc. Il y a 90% des choses qui potentiellement ne m'intéressent pas, ou en tout cas dans lequel ça m'enferme et qui prennent trop de temps, en fait. Et donc, la difficulté là-dedans, c'est que j'ai plein de choses qui m'intéressent potentiellement et j'ai le sentiment que je peux tout faire. C'est-à-dire que du moment que quelque chose pourrait me passionner, je suis capable, en fait, que je peux m'y intéresser, que je peux réussir à le faire et que je vais y arriver si je m'y intéresse. Et c'est ça. Alors ça, c'est le truc qui chez moi me questionne, enfin le qui en fait là, ça devrait être une force, voilà, pour tout te dire, ce truc là devrait être une force. Et en fait je me rends compte que ce qui est normalement une force et une qualité, c'est-à-dire que ça devrait être m'amener de la confiance, de dire oui je prends ça, je suis capable de le faire, c'est aussi un frein, parce que à un moment donné, comme tout ce qui passe devant moi peut m'intéresser et que je sens et j'ai le sentiment que je peux le faire, eh ben je peux me lancer dans n'importe quel projet et me lancer dans chaque projet comme ça, et finalement ne jamais arriver totalement au bout de tous les projets, ou en tout cas laisser des projets en plan, ne pas avancer sur certains projets, etc. Si tu suis, si tu regardes un petit peu tout ce que je fais, tu sais qu'il y a des projets qui avancent plus ou moins vite que d'autres. Je donnais l'exemple par exemple de mes livres. Je me suis lancé l'an dernier et puis l'année d'avant sur l'écriture de mes livres à 100%, où je passais 2 heures par jour presque à écrire, etc. J'ai un livre qui doit faire pas loin de 60-70 pages probablement, mais il n'est pas terminé parce qu'il reste la dernière étape, c'est-à-dire que je sais que je peux le faire, j'ai le sentiment que je suis capable de le faire, j'ai l'image du truc, je suis capable de le faire, mais en fait je suis parti sur autre chose, c'est-à-dire que je suis parti sur lancer une zone membre, je suis parti sur une nouvelle idée de podcast, sur des formations podcast, je suis lancé sur plein de choses. Et en ce moment même, tu vois, ce matin, j'ai écouté un podcast, j'ai écouté un deuxième podcast, j'ai lu certains trucs, etc. Enfin oui, là j'enregistre, il est 7h28, donc j'ai fait plein de choses dans ce type-là dans ma journée, et enfin dans ma journée qui a commencé à 5h, donc déjà j'ai pas mal de choses dans lesquelles qui sont venues, et puis j'ai écrit, tu vois, ce petit bout de phrase là comme ça devant moi, sur ce multipotentialité, multipassionné, j'ai essayé de mettre des mots en face, j'arrive pas à trouver les mots exactement, et donc tout ce que j'ai écouté m'intéresse potentiellement, c'est-à-dire que je dis ah bah tiens oui, ça c'est une bonne idée ce projet là, tiens je pourrais faire ça, je pourrais le créer comme ça, je pourrais faire un autre domaine, je pourrais faire ça, etc. Et donc le risque, c'est que je me lance dedans et puis qu'au bout d'un moment ça m'ennuie et que ça reste dans un type de projet, une espèce de succession. Alors si tu te reconnais là-dedans, la difficulté la plus importante qu'on a et que l'on croise, en fait, elle se retrouve sur mon compte Instagram et sur ma marque personnelle. C'est quelque chose que je racontais hier dans le podcast privé, dont je vais de votre coach web, mais qui est quelque chose qui est très révélateur, et c'est quelque chose qui fait rire ma femme, mais je sais pas si elle va rire très longtemps de cette histoire-là. C'est mon histoire, est-ce que je dois avoir un compte ou 2 comptes Instagram? Au départ, je suis parti sur un compte Instagram, Bertrand Soulier. Bon. Ça, c'était un truc. Et puis ensuite, j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce que je crée un compte Instagram, votre coach web? Bon, voilà. potentiellement. Donc au début, je me suis dit, sur mon compte Bertrand Soulier, je vais parler de un peu de tout, ma vie personnelle. Et puis sur mon compte, petit à petit, j'ai parlé aussi beaucoup de running, et je me suis rendu compte que j'avais un petit peu de prise sur le running et sur mon parcours. Et puis à côté de ça, votre coach web se développant, j'ai dit, je vais faire un compte de votre coach web, et puis rapidement, il m'a un petit peu ennuyé. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que je le reprenne, donc je l'ai repris, j'ai mis un petit peu plus d'efforts dedans, j'ai mis quelques vidéos, etc. Mais à nouveau, il m'ennuie, voilà, il m'ennuie. Pourquoi il m'ennuie? Parce que la difficulté, c'est qu'en fait, c'est une boîte qui est trop petite. La boîte de votre coach web en tant que telle, elle est trop petite. Et donc, cette boîte trop petite, c'est-à-dire me parler que de création de contenu, que parler de création de podcasts, etc., sur un compte Instagram, elle est trop petite, elle est j'arrive pas à me sentir à l'aise à l'intérieur. Le premier truc que j'ai fait par exemple, c'est de dire je vais faire du yoga pour podcasteur. Donc c'est-à-dire que j'en suis sorti, et le yoga c'est plutôt le truc dont je parle sur mon profil perso. Et à un moment donné, donc je dis bon, je vais tout rassembler sur mon profil perso, mais là où ça pose un problème, c'est que le monde étant fait de spécialistes, je me retrouve coincé dans, il faudrait en fait une boîte où les gens ils disent bah tiens, ils parlent de ça, et je sais qu'ils parlent de ça, je sais que les prochains contenus parleront de ça, etc. Et donc ça arrive toujours avec la décision, toujours la même, toujours cette espèce d'effet de balancier, de dire je suis trop à l'étroit dans la boîte, dans telle ou telle boîte, je veux essayer de créer une boîte qui est plus grande. Mais cette boîte n'est pas forcément adaptée au monde dans lequel, tel que le monde est construit. Le monde tel qu'il est construit, il cherche à avoir des boîtes qui s'empilent relativement bien les unes sur les autres pour pouvoir les empiler les unes sur les autres pour faire des murs, des constructions, des choses comme ça. Donc, la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à positionner parfaitement les choses. Et ça peut paraître totalement étrange cette histoire-là, mais quand j'essaye de définir ma marque personnelle, le mot qui revient finalement serait de dire que je m'intéresse à tout, je suis passionné par tout, et surtout il y a deux trucs, et là, tout à l'heure j'écoutais un podcast, et la question que posait la personne dans le podcast, c'était de dire, si tu as cette question-là, tu dois te demander qu'est-ce qui le matin te fait bouger, te donne envie de vivre, te fait quel est le business que tu as envie de créer, tatatatata. Et mon business, quand je réfléchis comme ça, ce qui rentre pour l'instant de l'argent, donc il y avait avant l'enseignement, maintenant qui rentre beaucoup moins. Il y a eu longtemps la formation aux réseaux sociaux, etc. Et ça m'a fait vibrer ces trucs-là, mais au bout d'un moment, Facebook ne me fait plus vibrer du tout, soyons clairs. Ce qui me fait vibrer, par contre, c'est de discuter avec vous, les uns les autres, là, tous ceux qui écoutent ce podcast, donc discuter avec toi, c'est de dire, bah tiens, si t'as besoin d'un truc, d'un coup de main, on peut discuter de ton projet, on peut faire avancer, on peut faire un bout de coaching sur telle ou telle chose, ça, oui. Mais en fait, rapidement, en fait, je me rends compte que la plupart des grosses difficultés qu'ont les créateurs de contenu que je rencontre, en tout cas moi, c'est pas sur de la technique pure, parce que si, il y a des questions techniques, mais ça revient très rapidement sur de l'organisation, sur de la mentalité, sur ce que je peux créer du contenu, comment je peux m'organiser, comment je peux avoir des idées. Et ma réponse que j'ai, moi, quand je dis ben, comment tu peux avoir des idées, tu pars te balader, tu vas marcher, elle est un petit peu plus orientée par le fait de mon changement de vie, par le fait que je fais du sport, par le fait que j'ai besoin de bouger pour avoir des idées, etc. Et donc, c'est ma personnalité qui a injecté là-dedans, et donc c'est vraiment ce côté, le côté Bertrand Soulier, si on reprend le compte Instagram, le côté globalité du Bertrand Soulier, c'est-à-dire créer, bouger, bien manger, avoir une vie équilibrée, ne pas passer son temps à travailler des heures et des heures pour ce qui m'éloignerait de ma fille, de ma femme et de la course et du sport, etc. Et donc la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à créer une boîte, voilà. J'essaye de créer la boîte dans laquelle je rentre, et c'est vrai que j'ai fait un épisode sur la patrescence, et la naissance de ma fille a beaucoup bougé de choses, hein, soyons honnêtes, hein, ça a vraiment fait bouger beaucoup de choses, et donc là j'en suis à un stade où maintenant il est temps que j'accepte. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un plan. Le premier plan, c'est de l'accepter. Accepter que, à un moment donné, je peux pas construire quelque chose qui ne soit centré que sur un élément. La question, par exemple, qui se pose, par exemple, c'est j'aimerais bien aller vers des métiers du sport. J'ai dit, je voudrais vivre la vie d'un sportif professionnel, etc. Hier, j'ai commencé à regarder comment on pouvait devenir coach, quels sont les diplômes, comment on peut passer. Enfin, j'ai regardé plus profondément, j'ai regardé les organismes de formation, est-ce qu'il y aurait des systèmes pour arriver à le faire relativement vite, ou est-ce qu'il y a des systèmes. Alors, il y a un gars, j'ai tombé sur une vidéo, il a fait 7 ans, je dis, waouh. Et je dis, bon, bah, normalement, 7 ans, ça veut dire que mon gagne-pain, finalement, c'est de faire de la création de contenu, créer de la contenu, mais créer du contenu pour qui? Créer du contenu pour les autres, créer du contenu pour moi, créer du contenu pour... Et en fait, là où ça devient difficile, c'est que, et je remercie la personne qui m'avait dit, mais j'ai postulé pour être sous-traitant, pour travailler, pour différentes personnes, et il y en a une qui m'a dit un truc, elle m'a dit, mais en fait, on discutait des idées, elle me dit, mais qu'est-ce que tu pourrais avoir comme idée pour mettre sur le site, etc. Je parle de ça et tout, elle me dit, mais il faut les mettre chez toi, en fait. Enfin, je peux pas te dire de les mettre chez moi, mets-les chez toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, effectivement, elle avait entièrement raison parce que tu vois effectivement que ce qui me fait vibrer finalement, moi, c'est de partager du contenu tel que moi j'ai envie de le partager, tel que c'est ça qui me donne envie de travailler, etc. Et après, ce qui me fait vibrer, c'est de voir que toi aussi t'es capable de le faire. Ça, oui. Et puis que t'es capable de trouver une vie équilibrée. Et donc, pour l'instant, je dois accepter cet état de fait que je suis dans ce stade-là où j'ai besoin de ces multipassions, j'ai besoin de tout ça. Et toi, je parle bien de multipassion pour l'instant, multipotentialité, je sais pas, mais on va dire que la multipassion ouvre de la potentialité de pouvoir faire plein de choses et que j'ai besoin en tout cas d'avoir ces différentes casquettes, ces différents axes de vie pour arriver à le faire. Et que je cherche maintenant à construire, c'est la deuxième étape, à construire la suite en prenant en compte cette caractéristique. Qui peut être de plein de choses, qui peut être de dire que finalement, dans le sport, être sportif, avoir ma vie un peu sportive, etc., ça serait de dire, je mets en œuvre toutes les compétences que j'ai sur le plan purement création de contenu, marketing, digital, etc., pour construire un profil, on va dire, type influenceur. Hein, je mets des gros guillemets, tu peux pas le voir parce que je suis en audio, mais je mets des très gros guillemets dessus, mais tu vois un petit peu l'esprit des choses, c'est-à-dire faire grossir un compte, avoir des sponsorings, etc. Ce qui, au passage, d'ailleurs, l'est un petit peu par la force des choses, hein, parce que la semaine dernière, je diffuse un épisode avec une marque qui s'appelle Altra. Depuis, je reçois des gens qui ont acheté des Altra, quoi. Au bout d'un moment, maintenant, je vais faire des mails à la marque en disant, écoutez, vous êtes bien gentils, les gens, mais vous êtes venus parler, je vous invitais à venir parler sur le podcast. Et à un moment donné, vous vendez des baskets grâce au podcast, donc il faudrait peut-être trouver un partenariat, et potentiellement, effectivement, c'est une piste. Voilà, dans le business, c'est une piste. Mais en fait, il y en a d'autres. Donc il y avait la piste du coach, il y avait la piste de la formation, alors sachant que, par exemple, faire du coaching en ligne, il faut avoir un diplôme, il faudrait mieux avoir un diplôme de coach. Donc ça, c'est... Les deux sont construits, mais en fait, il pourrait y avoir plein d'autres choses, en fait, qui pourraient se mettre là-dedans. Et par exemple, une piste que j'avais pensée, c'était de dire comment finalement je peux faire du conseil. Alors, en plus, c'est déjà pris, en fait, mais faire du. Mais ça veut pas dire que je peux pas le faire. Faire du conseil en comment est-ce que des gens qui sont coach running, coach de sport, etc., peuvent mieux communiquer grâce aux réseaux sociaux, les accompagner, etc., là-dedans, et puis tout en étant dans ce milieu du sport, etc. Mais en fait, ça revient finalement à faire mon métier de coach web, hein, en étant spécialisé, et en étant ultra spécialisé sur une niche encore plus spécialisée, et ce qui m'ennuierait un petit peu, soyons honnêtes, au bout d'un moment, ça m'ennuierait un petit peu de ne parler qu'avec des profs de yoga et des profs de running, parce que je suis comme ça, voilà, parce que je suis comme ça. Et donc, ça, le plan tout de suite, tel que je vais le mettre en œuvre, pour finir sur cet épisode, c'est un, accepter, donc voilà, donc j'accepte, il faut que j'accepte cet état de fait. Il faut ensuite, maintenant que j'arrive à dompter en partie cette chose-là, c'est-à-dire de comprendre, en fait, quels sont les ressorts, les tenants, les aboutissants, ce qui me fait avancer. Et je le dis, il y a un truc qui marche bien chez moi, c'est la méthode du sprint. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'un projet dure très longtemps, par exemple. Donc, c'est construire en prenant en compte cette caractéristique du sprint, accepter, etc. Et puis, trois, c'est trouver un business model qui me permette de le faire. Et un business model qui permette de le faire, par exemple, ça pourrait être de dire aussi que un des côtés de ma vie nourrit l'autre et permet à l'autre de s'épanouir beaucoup plus. Et ça peut être par le biais, par exemple, de formation, ça peut être par le biais de coaching, ça peut être par le biais de plein de choses. Mais pour l'instant, le business model tel que moi je le rêve, en fait, je ne l'ai pas devant les yeux, tout simplement parce que, par exemple, où il y a un moment donné, je me dis ouais, ça m'ennuie un peu de faire telle ou telle chose, ou je me sens pas très à l'aise dans tel domaine, ou ça, je voudrais pas être à l'aise, ou enfin, je voudrais pas le faire parce que je me sens pas à l'aise là-dessus, ou parce que je pense que ça, j'ai plutôt envie de le faire de telle ou telle manière. Et donc, tu vois, ce qui devrait être pour moi en fait une force de pouvoir avancer, de pouvoir avancer sur plein de choses, etc. Pourquoi ça devient un frein? Parce que en fait le spécialiste en fait il fait un truc, il fonce et il sait sur quoi il veut foncer, il sait sur quoi il va avancer, etc. Et il est vraiment déterminé là-dedans. Le multi comme moi, en fait, il va foncer un certain temps, et puis quand cette chose-là va finir par l'ennuyer, il va foncer sur autre chose, et encore autre chose. Si tu te reconnais là-dedans, et si tu as aussi des pistes pour avancer, ça m'intéresse que tu me dises ce que tu en penses. Moi, voilà, il fallait que je te donne aujourd'hui mon sentiment et mon plan. Le plan, et je pense que c'est le premier plan à accepter, c'est 1, on accepte, 2, c'est construire quelque chose en tenant compte de cette caractéristique, c'est-à-dire que c'est pas essayer de penser hors de la boîte, mais c'est d'essayer de recréer une boîte dans laquelle on va remettre des règles du jeu, hein, vraiment poser des règles du jeu, mais que dans cette boîte, finalement, elle soit assez large pour prendre en compte cette caractéristique, et que y ait des portes, je sais pas comment le faire, comment dire, mais qu'on puisse faire entrer des choses dans la boîte et en faire sortir d'autres quand ces choses-là ne sont plus intéressantes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que la marque personnelle est aussi importante, parce que c'est ce qui permet de faire entrer des choses et d'en faire sortir, de dire, quand ce projet-là m'intéresse plus, il m'intéresse plus, mais ma marque personnelle continue à exister, et de construire dessus un business model qui me permette de le faire, et qui me permette de m'épanouir, et qui me permette de vivre exactement la vie telle que je veux la vivre. Et au passage, maintenant qu'on sort de cette période de confinement, ces périodes de confinement m'a conforté dans ce sentiment-là, parce que je me suis la vie telle qu'elle est construite maintenant, là, avec le confinement et notre fille à la maison, bon, ça veut dire qu'il y a moins de temps de travail, etc., me pousse à réfléchir à une chose aussi, me dire, en fait, je ne travaille jamais l'après-midi, ou je travaille une heure des fois, si j'ai fait une petite sieste, je travaille pas du tout l'après-midi, et je travaille que le matin, et c'est cette question-là, vraiment, c'est de dire, c'est quand même vachement épanouissant, cette histoire-là. Comment ne vivre que d'avoir sur des demi-journées, en fait, voilà, d'avoir cette vie, alors, bien sûr, une demi-journée qui commence à 5h, qui finit à, on va dire, midi, voilà, grosso modo, donc ça fait quand même une journée de 7h en tant que telle, même dedans, il y a le petit déjeuner, il y a, je m'occupe de ma fille aussi sur un moment. Mais ce moment de confinement m'a conforté aussi dans le fait de dire que je veux avoir, construire ce type de vie. Ça veut pas dire qu'après, bien sûr, elle ira à l'école, elle va retourner à la crèche. À la crèche, on va récupérer à 4h. Donc, ça veut dire que finalement, il y a un bout d'après-midi qui était déjà bien entamé, hein, voilà, vraiment dans ce truc-là. Mais c'est comment structurer les choses pour arriver à prolonger, en fait, les bénéfices de ce moment où on était en cocon, en famille, et où finalement, on s'est structuré pour arriver à vivre, à créer, à faire des choses comme ça. Voilà. C'est un peu fourre-tout, tu vois, cette chose-là, mais c'est vraiment l'état de mon cerveau aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode sur Nouvelle Vie, et je voulais vraiment te donner un petit peu le sentiment pour que tu vois un petit peu exactement comment tout ça fonctionne dans ma tête. C'est des choses dont j'ai souvent parlé dans le podcast privé, mais si t'es pas patron sur votre coach web, tu l'as pas écouté, donc vraiment, ça fait partie des choses sur lesquelles je voulais raccrocher les wagons, parce que les gens qui suivent à l'extérieur arrive à voir aussi finalement un petit peu comment ça fonctionne. Et mon blog est un territoire qui est très personnel, le podcast, ce podcast-là est un territoire qui est très 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 personnel, et la construction, je pense qu'en fait nous sommes nombreux dans cette cas-là à se sentir enfermé dans des boîtes, ou ne pas savoir dans quelle boîte on veut se mettre, etc., dans quelle boîte on va se créer. Et le but du jeu, en fait, donc, c'est d'arriver en fait à trouver son positionnement. Et vraiment, ce que je fais en ce moment, c'est en tant que les lectures, les réflexions, les tout ce que je fais, c'est d'arriver à construire ça. Et je regarde plein de méthodes, je regarde plein de choses, et la conviction que j'ai, qu'il faut que j'arrive à trouver moi ma méthode, à construire en fait ma méthode qui va permettre de construire ça pour avancer là-dessus. Mais ça, je pense que ça sera le sujet de nouveaux épisodes au fur et à mesure de Nouvelle Vie, parce que ça fait partie des choses qui sont en travail, hein, en travaux, pardon. C'est le travail que je suis en train de faire là-dessus, et que je vais construire ça. Ce qui d'ailleurs va montrer aussi que Nouvelle Vie va être aussi orientée là-dessus, sur cette construction de comment construire une activité économique, une vie qui prennent en compte cette côté à la fois multipotentiel, multipassionné, et équilibré, équilibre de vie, équilibre familial, équilibre sportif, vraiment cet ensemble-là, voilà, c'est vraiment ce côté-là, comment je construis tout ça, et c'est vraiment l'axe de Nouvelle Vie tel qu'il va être dans les mois, dans les semaines qui viennent. Je prends l'engagement de toute façon de faire des épisodes toutes les semaines, parce que vraiment je sais que il y en a besoin pour que le podcast soit plus écouté, il y en a besoin aussi pour que tu comprennes le cheminement, parce que là, ça fait un mois que je te parle pas, puis d'un coup je redébarque avec mes trucs, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bon, si t'as suivi un petit peu par ailleurs, tu sais pourquoi je raconte ça, mais c'était important que je raccroche ça. Alors, voilà, sur ce, aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui, je te souhaite une très 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 belle journée, voilà, tu sais vraiment tout ce qu'il y a dans ma tête ce matin, le soleil est là, donc il fait super beau. Ça va être, moi je suis allé courir, hein, je suis dans mon programme de reprise, j'en parle dans Kilomètre 42, j'en parle sur mon compte Instagram, donc tu peux me suivre bien sûr sur Instagram, si tu me découvres, tu fais @Bertrand Soulier pour me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur YouTube, alors YouTube ça sera un autre sujet aussi, hein, j'ai ma chaîne Le Mouvement, j'ai ma chaîne Bertrand Soulier, là aussi, hein, à s'enfermer dans des cases, tout d'un coup on se demande si la case, elle a bien été taillée pour moi, et tu peux me retrouver aussi bien sûr sur mon blog bertrandsoulier.com, et puis sur Twitter Bertrand Soulier, et puis sur Facebook Bertrand Soulier, et puis après à partir de là tu verras tous les liens pour suivre tout ce que je fais à côté. Allez, je te souhaite une très 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 belle journée, je te remercie aussi d'avance pour le commentaire que tu vas mettre là tout de suite, tu vas aller sur Apple Podcast, tu vas démarrer Apple Podcast, tu vas aller sur le podcast Nouvelle Vie, tu vas mettre un petit commentaire, appuyer sur le bouton 5 étoiles, mettre un petit commentaire, et je te remercierai moi dans le prochain épisode d'avoir fait ce petit geste qui aide le podcast à se faire découvrir. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.